Polarisant, extrémiste, libertarien, c'est les mots qu'ils définissent le plus souvent sur la place publique, mais de notre côté, on le connaît de façon très différente, en fait. On le connaît pour des qualificatifs bien différents. Est-ce qu'on le connaît sous tous les angles, ce petit mini-wheat-là? Je sais pas, mais est-ce qu'on va pouvoir vous le faire connaître autrement? Certainement, Éric Duhaime, salut!
Bonjour!
Ça va?
Ça va bien toi-même, Pascal?
Ben oui, merci d'accepter l'invitation.
Plaisir.
T'avais l'air un peu stressé.
Ben là, je sais pas trop ce que tu veux me demander.
Comment t'es stressé avec moi?
Moi, j'aime ça des entrevues quand c'est bien politique, puis il y a bien des débats, puis que je m'engueule. Mais c'est là, ça a l'air que c'est pas trop la bonne place, ou je suis pas à bonne place aujourd'hui.
C'est plate, ça sera pas ça partout.
OK.
Éric, qu'est-ce que ça te fait? Parce que je t'ai présenté d'une certaine manière avec les qualificatifs qu'on entend souvent, là. Qu'est-ce que ça te fait, ça, dans la vie?
Rien. C'est-à-dire que pourquoi on me dit que je suis un extrémiste? Pourquoi je polarise? Pourquoi quelqu'un qui a exactement les mêmes idées que moi, mais à l'autre bout du spectre, lui, il n'est pas extrémiste? Je me suis toujours demandé ça, moi. Comment c'est qu'un gars comme Patrick Lagacé ou une fille comme Marie-France Bazot sont considérés comme mainstream, alors que leurs propos sont tout aussi extrêmes, sauf qu'ils sont à gauche au lieu d'être à droite? Puis ça, c'est normal. Puis Guillaume Lepage aussi. Puis tu peux tout nommer la clique du plateau à Montréal. C'est-tu parce qu'ils sont à Montréal? Être extrémiste, c'est être extrêmement loin de Montréal?
Je pense que ce serait une question de territoire.
Ben, je sais pas, mais je te dis juste que. Pour moi, je ne suis pas extrémiste. Moi, je suis un gars qui est à droite. Mais moi, je pense que l'individu est mieux placé que le gouvernement pour décider. Je pense qu'il faut moins de gouvernement, payer moins de taxes pour avoir plus de liberté individuelle. Est-ce que ça, c'est extrémiste? Voir plus de gouvernement, pourquoi c'est pas ça qui serait plus extrémiste? Quant à moi, c'est ça qui est vraiment extrémiste. Fait que moi, personnellement, je me trouve pas extrémiste. Puis les gens qui me disent ça, ben je me dis que ça démontre leur biais idéologique, point final.
Toi, t'es capable de jamais te laisser affecter parce qu'il y a jamais un moment dans ta vie qui t'a fait « Ah, oh, là, elle
ben,
est pas
au
drôle,
début,
ça, là,
au début, quand j'ai commencé, parce que moi, je suis arrivé dans les médias très tard, hein, vers à peu près 40 ans, j'ai commencé à faire des médias.
Puis je suis content, arrivé comme ça dans
je suis content
vie,
de pas en avoir fait avant parce que faire du commentaire, faire de l'opinion comme je fais, premièrement, à 20 ans, j'avais pas d'idée puis j'avais pas de vécu. J'aurais pas pu le faire, puis j'aurais pas eu la carapace non plus pour passer au travers. Puis même à 40 ans, au début, quand je lisais les commentaires ou je recevais des critiques, je trouvais ça excessivement difficile, ça m'atteignait personnellement. Puis ça m'empêchait de dormir, ça me faisait pleurer, toutes les affaires négatives qu'on peut penser. Aujourd'hui, ça me passe 100 pieds par-dessus la tête. Premièrement, j'en lis pas 99%.
Ce que tu faisais avant?
Ce que je faisais avant, c'est sur ma page Facebook, je vais rarement lire un commentaire de ce que les gens écrivent.
Pourtant, c'est ce qui t'amène beaucoup de répercussions. Je veux dire, si tu les lis, tu as une partie de ton fanbase qui est sur ta page Facebook, mais...
Mais c'est-à-dire qu'il y a des gens qui lisent pour moi, mon recherchiste va lire pour moi, puis va m'amener des affaires où je vois des gens que je connais, là, je les vois popper, fait qu'eux, je peux les lire. Mais, puis les gens m'envoient beaucoup par Messenger, là, sur la page Facebook. Puis ça, c'est souvent des gens qui m'alimentent. Tu sais, aujourd'hui, là, c'est plus comme avant, on a... moi, je dois avoir 100 000 recherchistes, là, parce que je reçois de l'information de partout. Ouais. Donc, les commentaires négatifs, quand je vois que c'est négatif, je passe à autre chose. Puis deuxièmement, la façon dont je me protège, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne s'adressent pas à moi. C'est comme s'ils s'adressaient à quelqu'un d'autre. C'est comme... Puis pour moi, la pire critique, c'est quand on m'attaque sur mes idées puis qu'on m'ébranle sur mes idées. Mais me traiter de « toi », non. Ça m'ébranle zéro. Puis en limite, l'insulte, c'est l'arme des faibles.
Plusieurs personnes ici là, qui te connaissent puis qui disent hey, « mon Dieu, Éric, vous ne connaissez pas comme nous, on le connaît, c'est un petit gars à sa maman, elle paye ses factures.
Ah, »
Est-ce
non,
que c'est vrai, ça?
C'est vrai que je suis proche de ma mère. Ça,
non, non, c'est
vrai.
Pas ça que je t'ai demandé.
Non, non, mais c'est vrai qu'elle paye mes factures. C'est vrai que je suis resté longtemps chez mes parents là, jusqu'en début de la vingtaine.
Pourquoi? Pourquoi c'est important pour toi? Pourquoi tu étais bien là?
Parce que je me sentais pas mal chez nous. Je sentais pas le besoin de partir. Je suis parti pour aller travailler, pour aller étudier. Mais je suis pas parti parce que j'étais écœuré de mes parents puis parce que j'avais le goût de voler de mes propres ailes. Puis ça, je sais que c'est bien différent. Ça varie d'une personne à l'autre, je pense. Il y en a des gens qui, à 15-16 ans, ils n'en peuvent plus. Puis il y en a d'autres qui passeraient leur vie dans le sous-sol chez leur mère puis ils seraient bien. Là.
Mais tes parents t'ont
moi,
jamais
comme
sacré
à mi-chemin
entre
les deux. Non, non, non. Ils m'ont pas sacré dehors. Je suis parti parce que j'étais allé travailler. Puis j'ai commencé ma première job, j'avais quoi, 23 ans, 20, à Ottawa.
Ta première job à 23 ans?
Oui, à la Chambre des communes. C'est tard. À la Chambre des communes à Ottawa. Mais je venais de finir ma maîtrise.
T'as jamais travaillé dans un casse-croûte, un
ah,
McDo?
Ah oui,
hein?
Oui, oui, des jobs à temps partiel. Oui, je travaillais sur la construction. J'ai payé mes études en travaillant sur la construction avec mon père. Mon père, c'est un entrepreneur en construction, en ventilation plus précisément. Puis moi, j'étais apprenti ferblantier. Et c'est comme ça que j'ai payé mes études. Donc, je travaillais l'été, je travaillais ces chantiers. Mais dans le temps, c'était des bons jobs bien payés, mais ça l'est encore. Mm-hmm. Et donc, j'étais capable, juste en travaillant l'été, de payer toute mon année scolaire. Puis j'ai fait ça pendant à peu près toutes mes études.
T'aimais pas assez ça pour continuer? Ton père aurait pas voulu que tu prennes la compagnie familiale?
C'est sûr qu'il aurait aimé ça que je prenne la relève. J'haïs pas ça. Regarde, présentement, j'étais dans des gros projets de réno. Moi, je passe au moins 3-4 heures par jour le matin d'un quincaillerie puis sur le chantier. Là. Les gens savent pas ça, mais j'aime ça. T'sais, j'aime. Puis ça, c'est sûr que c'est familial parce que ma mère aussi est impliquée dans l'entreprise. Là. Mon père et ma mère étaient associés.
Pourquoi tu as quitté ce domaine-là?
Parce que intellectuellement, ça me stimulait pas assez. J'avais besoin d'aller plus loin. Puis j'avais étudié. Moi, j'ai toujours été passionné par la politique. Là, à 12 ans, j'écoutais la période des questions, puis j'écoutais René Lévesque. Je courais quand je sortais de l'autobus à l'école pour aller écouter, ouvrir la télé pour que la période des questions à l'Assemblée nationale commence. Dans le temps, c'était à la Télé-Québec. Fait que, tu sais, j'avais cette passion-là que j'ai continuée, j'ai étudié.
Ton père, es-tu triste de ça?
Non, il n'est pas triste. Non, au
Ça n'a
contraire.
jamais créé de friction?
Non, il espère. Tu sais, je pense que comme tous les parents, tu espères toujours que tes enfants vont faire mieux que toi. Je pense que c'est naturel, c'est humain, c'est normal. Puis mon père espérait que. T'sais, je m'en sorte un peu mieux parce que c'est pas toujours évident là, t'sais, travailler à moins 30 dehors en hiver puis c'est pas une job puis en vieillissant c'est une job qui est très ingrate, t'sais, il l'a vu. Mon père a travaillé jusqu'à il y a quelques années là, il a travaillé jusqu'à au-dessus de 70 ans ses
Parce qu'il avait
chantiers.
besoin de le faire?
Non, non, parce qu'il aimait ça puis parce que c'est un grand travaillant, c'est un gars qui est encore excessivement en forme puis c'est pas évident ces chantiers là, t'sais, l'âgisme existe beaucoup plus puis ton corps il te lâche pas mal plus vite
Oui.
que ton cerveau. Donc, c'est pas des jobs évidents pour avec le temps.
Tu me parlais de politique à 12 ans. Tu voulais arriver vite de l'école pour regarder la période des questions. Est-ce que ça devient de tes parents, ça, ou tu as développé.
Non, pas du tout. Mes parents étaient un peu politisés, mais pas plus qu'il faut. Ça vient peut-être de mon grand-père paternel, qui était journaliste à la presse.
OK.
Qui est,
La presse que l'on
oui, mais
connaît.
mon père vient du Saguenay. Et mon grand-père dirigeait à l'époque la presse, avait des tabloïds régionaux. Mon grand-père dirigeait le tabloïd du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, est arrivé un moment donné une fusion. Ils ont décidé qu'ils fermaient les branches régionales puis qu'ils faisaient juste un gros journal, puis ça allait être le même journal partout au Québec. Et ils ont tout centralisé à Montréal. Donc, la centralisation des médias, ça fait longtemps dans la famille qu'on connaît ça. Puis mon père avait 16 ans, puis mon grand-père a été rapatrié à Montréal, fait que la famille a déménagé. Les cinq enfants, mon grand-père, ma grand-mère, puis sont venus s'établir dans la région de Montréal. Puis quelques années plus tard, mon père a rencontré ma mère. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Mais fait que j'ai grandi, moi, principalement dans la région de Montréal. Mais en voyageant toujours beaucoup, ben, au Saguenay notamment, parce que mon père avait encore ses racines là-bas. Fait que c'est.
Mais ton grand-père t'influençait parce qu'il était à l'intérieur de cette
Puis
entreprise-là?
mon grand-père, il couvrait beaucoup la politique. C'était un gars qui était passionné de politique. Puis il m'a peut-être transmis ça, oui. La lecture, l'autre, ça, c'est l'autre affaire aussi. T'sais, mon père avait pratiquement pas scolarisé. Il a décroché très tôt dans la vie. Fait que le premier livre qu'il a lu, c'est le mien. C'est le premier livre que j'ai écrit. Parce que. Puis c'est ma mère qui l'a aidé. Fait que, tu sais, mon père, c'était pénible pour lui, là.
Il fait partie des analphabètes,
Fonctionnel.
ouais,
On
c'est
pourrait
ça.
dire ça comme ça, là. Je pense pas que c'est pas péjoratif, là. Mon
Non,
père,
il y en
c'est
a
un des gars
beaucoup.
les plus travaillants que je connais, puis il a excessivement bien réussi sa vie. Mais c'était pas. Il a jamais été une bolle à l'école, puis ça ne l'intéressait pas. Alors que moi, c'était le contraire. Fait que, moi, j'étais stimulé par ça. Puis mes parents, au lieu de me décourager, même si eux n'étaient pas passés par là, ils m'ont encouragé. Tu sais, mes parents, au début, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mon père il travaillait sur la construction, ma mère était chauffeur d'autobus scolaire. Puis mes parents, tu sais, ils se privaient d'aller dans le sud l'été pour payer mon école privée, là, parce que mes parents ont investi dans mon éducation. Puis
As-tu
aujourd'hui, tu
été...
sais, je suis le produit de ça. Oui, j'ai du mérite, oui, j'ai travaillé fort, là, mais j'oublie jamais d'où je viens. Puis mes parents, si j'avais, il avait pas, ils m'avaient pas donné les bonnes valeurs, puis si en plus, ils n'avaient pas investi dans moi, mais je serais pas ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr.
Et ça t'a-tu gêné, ça, ce parcours-là de tes parents, ou au contraire, ça t'a motivé, là?
Non, ça me motivait. Puis, comme je te dis, mes parents étaient positifs par rapport à ça. Ils me valorisaient là-dedans. Puis, intellectuellement, là, même si chez vous, c'est pas, tu sais, tes parents, ils lisent pas, puis ils ont de la misère à t'encadrer pour tes devoirs, mais il y a d'autres moyens de le faire, là. Tu sais, moi, j'amenais des livres à la maison, puis j'avais d'autres monde dans la famille. Mon grand-père, entre autres, il m'aidait. J'avais d'autres amis, des parents d'autres amis. Tu sais, il y avait des profs aussi, j'allais peut-être les voir plus souvent que les autres étudiants. Il y a toutes sortes de moyens, de compenser ça.
T'étais quel genre d'élève à l'école?
Ben, je réussissais bien, c'est sûr. J'étais un gars qui était. Je suis pas mal sûr. Aujourd'hui, ils ont essayé de me faire prendre du Ritalin à un moment donné. Puis, ben, c'était pas du Ritalin. En tout cas, je me souviens plus c'était quoi. Je pense que
Un
c'était
médicament pour te calmer,
Ouais.
là.
Parce qu'ils trouvaient que je perturbais beaucoup la classe. Mais je réussissais très bien. C'est ça qu'ils trouvaient paradoxal.
Tu perturbais comment?
Ben, parce que moi, là, je trouvais ça plate à l'école. Parce que j'arrivais, puis j'avais déjà lu tous les livres, puis je comprenais tout ce que le prof expliquait. J'aurais pu donner le cours.
Tu fais-tu
Fait
ton érudit, là,
non,
ou...
non. Sauf que. Étant donné que j'apprenais rien, j'étais pas stimulé. Fait que moi, qu'est-ce que je voulais faire? Je le niaisais, puis je le jasais avec le gars à côté de moi, la fille, puis je faisais des mauvais coups. Puis pendant ce temps-là, la personne qui me parlait, elle, pendant ce temps-là, elle l'écoutait pas, puis elle était
Mais
pas
non,
rendue au même point que moi. Fait
c'est
que quand il
sûr.
arrivait l'examen, elle accoulait. Moi, j'étais correct.
Ah.
Fait que là, tu comprends que ça a causé des problèmes. Fait qu'ils ont essayé de me médicamenter, puis de me calmer, puis tout ça. Ma mère a pas voulu, heureusement. J'étais un peu hyperactif, mais encore, je le suis encore un peu, là. Tu sais, je me regarde aller, là, puis je sais que c'est pas normal de dormir 4 heures par jour puis d'en travailler 16. Là. Je suis pas fou, là.
De jogger avant de prendre ton
C'est
café.
ça. Puis en fait, je prends très peu de café, Pascal, parce que ça me rend tellement hyper, je suis tellement déjà stimulé, puis tellement... Tu sais, comme faire de la radio, là, je sais que j'ai un débit de voix rapide, OK? Les auditeurs, vous l'entendez, là, là, peut-être pas là, mais vous le savez quand je suis en onde, là, dans mes émissions, normalement.
Puis quand ça te prend à cœur, là, ton de voix
ça
est
monte,
plus aiguë.
Ça accélère. Et si je prends du café, c'est encore pire. Je vais encore plus vite. Fait que c'est pour ça que le café est très peu pour moi.
Écoute, on a entendu la porte s'ouvrir puis
Oui.
se refermer, là. Tu t'es demandé à ton recherchiste d'être là pendant l'entrevue avec
Oui.
une collègue que tu connais. Pourquoi?
Ben parce que il est tout le temps là, j'ai tout le temps. Tu sais, dans la vie, là, il n'y a personne qui est parfait. On a tous des forces puis des faiblesses, puis on faut tous s'entourer de gens, je pense, qui nous complètent. Puis moi, mon recherchiste, il me complète dans ce sens-là. Tu sais, il va le savoir s'il y a quelque chose qui se passe pas. Puis moi, j'ai des forces que lui a pas de toute évidence, puis lui a des forces que moi, j'ai pas de toute évidence aussi. Fait que j'aime ça avoir toujours un deuxième son de cloche.
Oui, mais à part être assis sur une chaise, mettons, là, il est parti, il s'est sûrement dit, il est en
C'est
confiance, ça
bien
va bien,
parti.
mais...
Non, mais c'est parce que je veux savoir ce qu'il a pensé. Pour moi, c'est important. Parce que je le sais, il va être capable de. Il me connaît assez pour savoir ça, c'était correct, ça, c'est pas correct.
C'est pas contradictoire de dire, moi, l'opinion des gens ne m'importune pas, ou du moins ne m'intéresse pas, mais j'ai besoin que quelqu'un approuve, ou du moins
Oui.
me dise son commentaire par rapport à une entrevue que j'ai livrée
Non,
avec une
mais
collègue.
c'est ça qui est bizarre. Des fois, les gens me disent, comme toi au début, tu sais, comment ça se fait que tu te fous des opinions des autres, mais c'est parce que si tu veux être capable d'être assez fort pour affronter tout ça, il faut que autour de toi, tu sais, mon chum, mes parents, Luc, mes autres amis, il faut que tu aies un noyau très solide. Parce que tu peux pas passer au travers tout seul. Et il faut que tu saches t'entourer dans la vie. Puis ça, c'est vrai, pas juste pour du monde en radio, c'est vrai pour tout le monde, là. Tu as besoin d'un solage qui est solide. Et pour moi, mon solage, de sa part de mes parents, je viens de vous en parler, il y a mon chum, puis il y a mes amis, puis particulièrement Luc.
As-tu peur de la solitude, Eric?
Oui. Ben oui. Surtout, moi, je suis un enfant unique. Puis je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent, il y a de plus en plus, je suis de moins en moins unique dans le sens où il y en a de plus en plus de monde qui ont juste un enfant. Fait que c'est, on va être nombreux là, à vieillir tout seul. Fait que tu n'as pas de frère, tu n'as pas de sœur. Moi, en plus, je suis gay, fait que j'aurais pas d'enfant. Tu sais, je regarde tout ce qui se passe au Québec, je regarde les CHSLD, je regarde la société vieillissante, le vieillissement de la population, c'est phénoménal au Québec ce qui se passe. Je me dis, OK, moi, quand je vais être rendu là, qui va s'occuper de moi? Puis tout le monde, puis il y a beaucoup de gens qui ont cette préoccupation-là, là, parce que, puis même si tu as des enfants, ça ne veut pas dire que tes enfants vont aller te visiter en passant, là. Puis ça ne veut pas dire que tes parents, normalement, la normalité des choses fait qu'ils vont disparaître avant toi. Tes frères et sœurs ne sont pas toujours près de toi non plus. Puis on vit dans un monde de plus en plus bizarrement seul, même si on a de plus en plus d'amis entre guillemets virtuels, là, tu sais, sur Facebook. Moi, j'en ai 100 000 amis, mais en réalité, j'en ai peu. Tu sais, ça se compte ses doigts d'une main, les gens que je peux appeler 24 heures par jour et qui vont être là pour moi. Ça, pour moi, là, c'est les, je sais pas s'il faut dire les pattes d'une chaise ou le solage d'une maison, mais pour moi, c'est la base.
Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ta carrière, ton entourage?
Hey boy! C'est drôle parce que j'ai l'impression que ça va ensemble. C'est comme si tu me demandais de choisir deux choses qui sont interreliées. Moi, j'ai jamais eu l'impression que j'avais une carrière. J'ai jamais travaillé, je me suis jamais levé le matin puis dire, il faut que j'aille travailler puis à reculons. Comme pour moi, là, tu le sais, des fois, même les week-ends, là, je viens faire des entrevues. J'ai même été un collaborateur régulier à Montréal les week-ends. Il n'y a pas de jour de travail puis de jour off. J'ai pas cette notion-là. Parce que c'est sûr que le fait que, tu sais, quand tu as des enfants, c'est pas pareil. Parce que tu as l'école, tu as lundi au vendredi, c'est différent du week-end, tout ça. Fait que quand tu es, en partant, là, tu sais, quand tu n'as pas d'enfants, ça change un peu. Puis moi, ça change d'autant plus que pour moi, travailler, j'aime ça. Puis parce que j'ai travaillé longtemps en politique aussi avant d'être dans les médias, puis c'est deux domaines qui sont un peu similaires à ce niveau-là. Tu as souvent des gens qui sont et des amis, et des collaborateurs, et des sources, et des bénévoles, et des. Tu sais, c'est tout est mélangé. Fait que un moment donné, tu le sais plus. Tu fais un souper chez nous des fois, puis je ne sais pas si c'est pour le travail ou si c'est personnel. C'est-tu parce que j'ai du fun ou si ça m'aide professionnellement? C'est pas clair.
C'est un bon mélange des deux.
Puis quand je suis en onde, c'est un peu la même affaire aussi. Moi, quand je parle aux auditeurs, il faut pas que j'ai l'impression que je suis en train de travailler, puis que je punch, puis que je compte les minutes qui me restent à faire. Je suis là parce que j'ai envie d'être avec eux autres, puis j'espère qu'eux autres aussi ont envie de m'entendre. Fait que puis c'est pour ça que j'aime aussi l'interaction avec les auditeurs, parce que j'ai l'impression que c'est du monde à qui je parle, là. C'est pas un robot, là. Et je veux garder ce lien-là. C'est ça. Fait que pour moi, je fais pas la différence entre quand je suis assis avec mes amis, puis je bois une bière, ou quand je parle à des auditeurs.
OK. Tu m'as parlé deux fois d'enfant depuis le début de
Oui.
notre conversation. Qu'est-ce que ça te fait de te dire que tu n'en auras jamais d'enfant? Pas parce que tu peux pas, tu pourrais adopter.
Oui, je pourrais adopter. J'ai déjà pensé d'ailleurs. C'est sûr que c'est un choix d'envie. Tu sais, à un moment donné, puis là, je suis rendu trop vieux, là, mais il y a peut-être 10-15 ans, là, j'ai senti. Je sais pas, on dit que chez la femme, c'est particulièrement fort. Chez
On
l'homme,
dit que les ovaires nous claquent, là.
c'est ça. À un moment donné, là, c'est l'horloge biologique qui se met à sonner. Les gars, on le vit peut-être moins fort, je pense, mais je l'ai senti un peu. Moi, c'était niaiseux, là, mais je m'étais dit avant 40 ans, si t'as des enfants après 40 ans, ça n'a pas d'allure. Après 40 ans, t'es rendu grand-père, là. Parce que moi, mes parents m'ont eu très tôt, hein. Ma mère avait 21 ans, mon père 22, 23, t'sais. Fait que moi, mes parents, t'sais, c'est pour moi, à 40 ans, là, j'habitais plus chez nous, là, t'sais, fait que ça n'avait pas d'allure pour moi d'avoir des enfants à 40 ans.
T'as eu cet appel-là.
Ouais, fait qu'à 40 ans, là, je me suis dit, là, j'étais à la croisée des chemins, ou ben non, j'en ai, ou ben non, j'en ai pas. Puis, à ce moment-là, j'étais dans une situation de couple, mais ça me convenait pas. Je pensais pas finir ma vie avec cette personne-là, puis je pensais pas que ça pouvait être quelqu'un avec qui j'allais partager ça. Puis, les élever seuls, je trouvais pas que c'était optimal, ni pour moi, ni pour l'enfant. Fait que je n'ai pas eu.
Est-ce que c'est une tristesse de pas avoir d'enfant?
Là, je vais dire quelque chose qui va choquer bien du monde, OK? Mais j'ai mis A, OK? Puis là, je sais que les gens capotent parce que je vais assimiler. Puis là, je sais que j'espère que Sylvain Bouchard n'écoutera pas cette entrevue-là. Il vient de changer de poste. Mais c'est niaiseux, là. Mais ceux qui n'ont pas d'enfant puis qui ont un chien, là, vous le savez, là, ou même un chat, c'est comme nos bébés, là.
Elle
Tu
n'a
sais,
pas
moi,
autant qu'un enfant.
ben, je catine. Écoute, à tous les jours, il faut que j'aille prendre ses marches 2 fois par jour. Il faut que je ramasse son caca.
Oh, mais
Il faut que je
Mia
la
ira jamais à
nourrisse.
l'école, Mia aura jamais nécessairement
Non,
d'amis qui viennent à la maison.
mais je l'élève, puis je m'en occupe. Puis c'est même pire parce qu'elle, elle ne sera jamais autonome. C'est à vie, là. Fait que là.
Tu compares vraiment ça à un enfant?
Ben non, je compare pas ça à un enfant, mais je te dis juste que c'est une présence. Puis sous-estimons pas ça. Tu sais, quand tu arrives dans une maison, puis qu'il y a un animal qui t'attend, puis qui te saute dessus, ça te fait quelque chose. Tu sais, c'est comme quand tes enfants reviennent de l'école, là. C'est pas une question d'être humain ou pas, là.
C'est pas de combler un vide, ça?
Ben oui, mais la vie, c'est ça. La vie, sinon, elle mérite pas, ça vaut pas la peine de la vivre, là, si on remplit pas les vides,
Mais
là.
mettons combler un gros vide avec Mia qui en remplit une partie, mais
Hey, c'est
jamais.
un gros. Elle remplit un gros vide, tu sauras,
Ben oui,
Pascal.
il reste un pourcentage que l'enfant
C'est
aurait pu
sûr.
t'apporter.
C'est sûr.
Ça,
Mais.
t'es-tu triste de ça?
Oui, j'aurais aimé savoir des enfants, mais comme je t'ai dit, le contexte
S'y prêtait
se
pas.
prêtait pas.
Aurais-tu été un bon père?
J'aurais été sévère.
Trop sévère?
Je pense. Mais en même temps, gâteau, j'aurais été les deux. Là. Comme tu disais tantôt, tu disais givré puis sucré, là. Ou comment tu m'as appelé,
Un
là?
mini wheat.
Le mini wheat, mais j'aurais été un mini wheat, je pense. J'aurais eu un côté salé, un côté sucré. Puis très. Moi, j'étais un gars, puis ça se paraît dans mon travail aussi, là. J'étais un gars de résultat. Tu sais, je vais reconnaître les mérites aux gens qui m'entourent en fonction du résultat. Et non pas en fonction des émotions, puis en fonction
De la
de la
personnalité.
personnalité. Et
C'est pas un peu intransigeant, ça? C'est pas.
peut-être, mais je fais comme ça. Puis j'ai été dans un milieu où c'est en politique, c'est beaucoup comme ça. En politique, tu meurs. C'est parce que, puis même dans les médias, je veux dire, nous autres, là, dans 6 mois, il arrive un mauvais sondage, merci, bonsoir, c'est terminé. Là, on est toujours sur des sièges éjectables. Là. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans les médias, que je suis dans un siège éjectable. Puis avant ça, j'étais en politique pendant 20 ans, puis j'étais sur un siège éjectable. Pendant 10 ans, ça fait 20 ans au total. Là. Mais je veux dire, c'est comme ça. T'as pas le choix.
As-tu de la misère avec les émotions? C'est parce que tu les endosses mal? Est-ce que c'est parce que tu les gères mal, les tiennes et celles des autres?
Bien, c'est parce que les émotions, là, ça rapporte pas de résultats. Puis si tu te bases sur tes émotions, tu vas prendre des décisions irrationnelles, puis tu vas crever. Parce que je suis dans un milieu, moi, j'ai pas de permanence, puis de fonds de retraite, là. Moi, je suis dans un milieu où faut que tu performes. Puis s'il y a des gens autour qui nuisent à la performance, ben il faut les éliminer.
Mais d'un autre
Puis il faut pas
côté.
que tu t'attaches, parce que ça, c'est l'affaire que j'ai vue en politique. Tu t'attaches à des gens, puis là, il y a des trahisons. Parce qu'en politique, c'est encore pire, là. Tu sais, quand quelqu'un change de parti ou que tu apprends que c'est une taupe puis qu'il coule l'info. Tu sais, j'ai vécu ça, moi, là. Du monde que je pensais que c'était mes amis puis que je m'étais un peu attaché. Puis ça te fait
Oui, mais
wow.
la vie n'est pas la politique. Tu sais, t'as une vie humaine, une vie
Non, je comprends.
sociale à
Mais quand tu
côté.
passes 20 ans là-dedans, je peux te dire que ça te déforme.
Ouais, ça, je peux comprendre qu'il y a une partie de toi qui est impliquée puis qui est changée à tout jamais à cause de ça. Mais ça nuit pas un peu tes relations interpersonnelles, ça, d'être intransigeant puis de se dire,
Mais
moi, ton travail, c'est ce qui compte, le reste.
moi j'ai mes relations là affectives, là, moi j'ai pas besoin de la job pour ça.
Je vais te parler de Nathalie Normando parce
Oui.
que j'ai l'impression que ça a été une amie aussi pour toi à
Oui.
travers le contexte professionnel, ce qui est un peu différent de ce que tu viens de nous dire. Comment ça s'est passé dans ta tête, puis même comment ça s'est passé pour toi le moment où elle s'est fait arrêter?
Ok, ben deux. D'abord, je vais reculer un petit peu là avant. quand Nathalie et moi, on a commencé, moi, je la connaissais pas du tout, OK? On s'est organisé, c'est Pierre Martineau, notre boss ici au FM 93, qui nous a organisé une blind date. On s'est rencontrés dans un restaurant à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, parce qu'il fallait pas que personne nous reconnaisse.
Mais tu savais que tu allais la voir, elle?
Au début, non. On m'avait parlé d'une femme qui avait été en politique, qui avait fait de la politique, mais je savais pas à quel niveau. Fait que là, elle avait... Je me souviens pas comment il m'avait décrit, mais en tout cas, elle savait pas trop. Et là, on est arrivé au restaurant, on est arrivé face à face. Et là, on s'est assis, on était tout seul.
Puis le gars qui crie tout le temps libéral!
Libéral!
Face à une libérale!
Moi, c'est ça, il y a personne qui m'accuse d'être libéral. Et là, je me suis assis avec elle, on a jasé. Puis Nathalie, c'est une fille qui est effectivement très, très, très gentille, très affectueuse. Elle est très émotive, très. Tout ce que je te disais tantôt, là, que je suis pas, là, elle
a. C'est de la misère à dealer avec.
Elle est tout le contraire, puis c'est une fille qui est très attachante. Puis moi, je voulais pas m'attacher. Et dès le départ, j'ai dit, Nathalie, garde, notre relation va toujours être professionnelle. Puis je veux pas qu'on se voit en dehors du studio.
Quel échec, non?
Et Nathalie, au début, elle n'était pas nécessairement d'accord ou à l'aise avec ça, mais elle a compris. Puis la raison pourquoi j'avais fait ça, puis je l'ai continué à le faire avec mes autres co-animateurs depuis ce temps-là, je veux pas qu'il y ait de inside. Puis je veux pas que hier soir, tu sais, comme on s'est dit hier soir, non, il n'y a pas eu hier soir, là. Tout ce qu'on s'est dit, puis tout ce qu'on pense, puis tout ce qu'on a partagé en commun, vous avez été avec nous, les auditeurs. Pour moi, c'était super important.
Mais pourtant, tu as vu Nathalie à l'extérieur du travail. Tu as même développé un gros sentiment de complicité avec ton équipe à ce moment-là.
Oui,
vous sortiez, vous allez boire
attends,
ensemble.
C'était arrivé à l'occasion, puis j'étais toujours celui qui voulait pas. Puis j'y allais parce que les autres y allaient, puis qu'on me forçait un peu.
Ouais, mais tu as eu du fun. Là.
Oui, mais je voulais éviter au maximum ces interactions-là. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était en onde. Puis ça a super bien été, là. Puis je me suis attaché à cette fille-là. Puis pour revenir à ta question... Quand elle était arrêtée, écoute, j'étais chez nous le matin, le téléphone a sonné à 6h30, je pense, ou quelque chose comme ça, très tôt. C'était Patrick Bégin, qui était producteur de l'émission à l'époque, qui est rendu au 98.5 à Montréal. Puis Pat, il me dit, Nathalie s'est fait arrêter. Puis moi, j'étais avec mon chum chez nous. La veille, je savais qu'elle sortait avec ses amis de filles. Puis moi, je me suis dit, ils ont dû picoler les filles, puis elle a dû prendre deux verres de trop, puis elle s'est fait arrêter pour alcool au volant. J'étais sûr, quand il m'a dit ça... Je pensais qu'elle venait de se faire arrêter pour alcool au volant. Puis je me disais, bon, c'est grave, mais ça va s'en sortir. Puis c'est pas... Là, il me dit, non, t'as rien compris, là. Il dit, c'est l'UPAC.
Là, je dis, hein? Mais là, tu devais te douter un peu que ça pouvait arriver.
Honnêtement, je pensais pas que ça arriverait.
T'as tellement décrié tout
oui,
ce contexte de corruption.
Dans ma tête, à moi, Nathalie Normando, c'était pas la tête du réseau, puis c'était pas elle qui aurait... Tu sais, Nathalie, je la côtoyais à tous les jours, là. Je savais que c'est pas une fille qui vit au-dessus de ses moyens, je savais que c'est pas une fille...
Mais ça a pas pu un peu déformer la vision que t'avais d'elle, maintenant que tu la connaissais plus en tant qu'amie que collègue. Est-ce que t'avais apaisé un peu tous tes soupçons à cause de ça?
Peut-être, mais je pensais... Parce que moi, au début, quand j'ai rencontré Nathalie, la première fois quand je t'ai rencontré au restaurant, que je t'ai parlé tantôt, j'ai demandé. J'ai dit, Nathalie, t'as-tu quelque chose à te reprocher? Là? Ça va-tu nous péter d'en face, cette affaire-là? Là? Non, Éric, jamais. Puis tatata, puis là, elle m'a déblatéré toutes ces affaires. Puis moi, je l'ai cru parce que je me suis dit, c'est pas elle. La façon dont ça procède, normalement, s'il y a un système... Puis là, je dis pas que c'est le cas, là. J'en reparlerai en nombre quand je ferai des affaires politiques, là, mais s'il y a de la corruption systémique, c'est sûrement pas Nathalie Normando qui est à la tête de ça. Moi, j'ai jamais cru ça, puis je croirais jamais ça. Et donc, fait que j'ai cru Nathalie. Fait que quand c'est arrivé, ça a été un gros choc. Le matin même, par exemple, je réalisais que c'était grave, puis je réalisais aussi que ça avait changé. Et j'étais encore au téléphone avec Patrick quand il m'a appelé à 6h30 le matin. Puis mon chum, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? Là, je lui dis, écoute, Nathalie vient de se faire arrêter à l'UPAC, t'as ta tête au poste de police. Il me dit, ah, vas-tu pouvoir être là pour être à 11h pour le show? Là, je dis, François, t'as pas compris, là. Nathalie, on fera plus jamais de radio ensemble. Tu sais, ça faisait 15 secondes, je le savais. Puis
c'était
pour
clair,
moi, c'était clair que ça venait de s'effondrer. Et je savais que l'émission, on la ferait pas ensemble, puis ni le lendemain, puis ni la
semaine
d'après.
Et pourtant, c'était un grand succès. On s'entend que vous avez eu des codes d'écoute extraordinaires à ce moment-là.
C'était l'émission la plus écoutée à Québec, toute catégorie confondue, toute heure confondue, toute section d'âge confondue. C'était... Puis ça a été instantané. Là. Ça a pris 2 mois, ça a levé comme une fusée. Et,
T'ennuies-tu de ça?
Oui, parce que c'est sûr que Nathalie était vraiment complémentaire avec moi dans le sens où, autant au niveau de ses opinions, un gars, une fille, on avait... Puis, tu sais, c'est niaiseux, là. Puis, j'ai eu depuis ce temps-là plusieurs co-animateurs. J'en ai eu plusieurs. J'en ai eu quoi, 4-5 depuis ce temps-là. Avec Nathalie, là, cette chimie-là, ça s'achète pas, ça s'invente pas. Puis, les gens disent, ah, ça va venir. Non, ça vient pas. ça se planifie pas, ça se... Puis même la personne qui nous a mis ensemble ne le savait pas. Je veux dire, tu sais, quand tu fais de la radio avec quelqu'un, tu sais pas
c'est
si...
C'est un essai-erreur.
C'est hein? ça. C'est comme si tu mets une tarte dans le four puis tu sais, ou un gâteau, puis tu sais pas s'il va lever ou pas. Là. T'as aucune idée. Fait que des fois, ça lève, des fois, ça lève pas, puis demande-moi pas pourquoi. Mais avec elle, clairement, la chimie y était beaucoup. Et c'est sûr que ça me manque. Puis j'ai été très déçu parce que, moi, dans ma tête, là, on était parti pour 5-10 ans. Moi, je pensais que j'allais faire de la radio avec Nathalie Normando pendant 5-10 ans. Je me disais, on va être une bonne émission de radio. Puis normalement, en radio, là, quand ça part comme ça, puis ça part en flèche comme ça, c'est un succès assuré pour 5 à 10 ans avec Le Monde se cale. T'sais. Puis moi, j'étais convaincu qu'on était parti. Fait que quand du jour au lendemain, ça s'écroule comme ça, c'est sûr, au début, j'y en voulais même un peu. J'ai eu toutes sortes de sentiments par rapport à elle. J'y ai reparlé quelques heures après son arrestation. Évidemment, elle était en pleurs. C'est la conversation la plus weird que j'ai eue avec elle. Elle passait d'un extrême à l'autre. Là. On riait. Après ça, elle pleurait. Après ça, on parlait des affaires sérieuses. Après ça, on parlait de son arrestation. C'était vraiment une conversation en dents de scie. Puis je voyais qu'elle était complètement déstabilisée. Puis moi aussi, probablement, là, j'étais traumatisé un peu. J'y ai reparlé à quelques occasions où on s'est texté quelques fois, mais on ne s'est jamais revu. J'ai physiquement jamais revu Nathalie Normando depuis ce jour-là.
T'aimerais-tu ça le faire? Vas-tu le faire un jour?
Si ça donne, oui, j'aimerais. J'ai rien
si
contre.
Si ça donne, je veux dire, pas la croiser sur le trottoir.
Non, mais dans le sens où je sais que, tu sais, le jour où je vais être attablé avec elle en train de prendre une bière, il y a toutes sortes de rumeurs qui vont repartir à Québec.
Bon, parlons-en des rumeurs, Eric. Il y en a qui disent que tu es un personnage en onde, que tu n'es pas toi-même.
Non. Tout ce que je dis, je le pense. J'ai jamais dit le contraire de ce que je pensais.
Pousses-tu un peu trop des fois en disant, gars, là, ça fait réagir, je vais pousser ou encore. Toi, joue la partie de gauche, moi, je vais jouer de la partie de
non,
droite.
Non. J'ai jamais. Ça, il y a des gens qui pensaient qu'on tirait au sort, là. Moi, puis Bernard surtout. Les gens pensaient qu'on faisait pile ou face, savoir qui était pour, qui était contre. Jamais, jamais. Mais comment je te dirais ça? C'est sûr que des fois, là, tu peux faire le même débat, puis c'est juste le ton de voix, c'est juste le. Tu sais, ça prend pas grand-chose. Puis c'est dur à expliquer, là. Il y a plein de gens comme moi qui ont des opinions. Tu sais, pourquoi moi ça a marché, pourquoi d'autres ça marche pas, ou pourquoi d'autres ça marche encore mieux. C'est très, 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 très difficile des fois de comprendre.
Mais tu veux-tu garder ton fanbase là, parce que c'est ce qui te fait vivre en ce moment? Est-ce que tu veux le garder en disant « Hey, je vais japper aussi fort que j'ai toujours jappé » parce que c'est ça qui fait en sorte que j'ai une paye.
Le fanbase, là, ça, c'est Jean Lapierre m'avait déjà expliqué ça. Là. Le fanbase, c'est pas lui qui te fait vivre. Là. C'est l'ensemble des auditeurs. Puis les gens qui m'écoutent, là, puis qui réagissent à ce que je fais, il y en a autant que c'est positif que de négatif. Fait que mes haters, ils me font autant vivre que mes fans.
Mmh. Ces gens-là qui taillissent profondément, là. Je veux dire, il y en a qui taillissent profondément. Oui. On avait un graffiti ici en bas, là, où le stationnement, c'était même pas ton stationnement, puis t'es écrit à oh, bas, Eric Duhaime, ou je sais pas quoi.
De mort, on a reçu, je me suis fait cracher dessus, je me suis fait bousculer. Ça arrive souvent, là. Ben, ça arrive souvent. Surtout à Montréal. À Québec, c'est plus rare, mais quand même à Québec, des fois, c'est arrivé. Mais c'est surtout à Montréal que ces genres de trucs-là arrivent.
Ils te reconnaissent pour taillir?
Oui. Mais tu sais, qui fait ça? Pourquoi tu suis quelqu'un pour le détester? Il y a quelque chose de bizarre, hein?
Il y en a qui disent que tu fais la même chose de ton côté. Tu t'acharnes sur certaines personnes, puis...
Mais j'espère que je m'acharne pas sur des personnes. Habituellement, je m'acharne sur des idées. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Ça se peut que j'aille déraper à l'occasion, mais... Puis je pense que c'est pour ça que j'ai jamais eu de gros troubles, tu sais. J'ai jamais eu de poursuites, j'ai jamais eu de... Malgré tout ce que je dis... Je pense qu'une des raisons, c'est parce que je m'attaquais aux idées. Puis ça, on a encore, heureusement, dans notre société, le droit de s'attaquer à des idées. Je sais que l'espace de liberté ratatine dans l'espace public ces jours-ci, mais on est encore permis.
Ça te fait-tu peur, ça? Le fait que tu puisses pas autant dire de choses que tu pouvais il y a quelques années?
Écoute, moi, ça fait juste 10 ans que je suis dans les médias, puis j'ai vu le fait qu'on puisse de moins en moins parler, s'exprimer. Puis ce qui me fait encore plus capoter, c'est de voir que là, c'est plus juste des animateurs de radio, c'est rendu des artistes, c'est rendu des Robert Lepage, c'est rendu des humoristes, c'est rendu des Mike Ward, des Guy Nantel. Et l'espace de liberté d'expression au Québec, à tous les jours, il ratatine.
Est-ce que ça pourrait faire en sorte que tu te détaches de la radio parce que tu t'y retrouves plus puis que tu penses que c'est pas la façon de passer ses idées?
Moi, j'ai la chance d'avoir une grande indépendance. D'abord parce que je te l'ai dit, j'ai pas de famille, j'ai pas d'attache, j'ai pas de responsabilité financière à tous les semaines. Puis l'autre affaire, c'est que je suis arrivé dans les médias à un âge où mon argent était déjà fait. Fait que je sais que c'est pas la majorité dans notre milieu, mais moi j'ai cet avantage-là. Fait que j'ai jamais eu cette insécurité. Puis tu sais, vous pouvez demander à tous mes boss qui m'ont eu, puis eux c'est leur cauchemar, là, mais moi je m'en fous, là. Mais oui, je suis content de recevoir mon chèque de paye, là. Interprétez-moi pas mal, là. mais je le fais pas pour la paye. Parce que je sais que je peux faire d'autres choses dans la vie. Tu sais, je pourrais retourner. Puis j'ai plein de passions. Tu sais, j'ai travaillé pendant des années à l'étranger en développement démocratique. J'aimerais ça retourner vivre à l'étranger pendant quelques années. Je t'en ai parlé tantôt dans l'immobilier. Je commence à avoir des projets. J'aimerais ça peut-être un moment donné faire une couple d'années puis développer un parc immobilier encore plus important. J'ai la politique. J'ai peut-être pas dit mon dernier mot, même si mon chum
m'a dit... Tu peux y retourner?
Bien, peut-être pas y retourner en... Peut-être pas pour me présenter, mais peut-être pour aller conseiller ou aller travailler ou faire une campagne électorale. J'adore ça.
Pas ta face sur les pancartes, mais peut-être stratège.
Bien, je l'ai faite. J'ai tout fait, là. Je sais pas qu'est-ce que j'irai. Moi, pour moi, à la limite, le chemin que je prendrais n'est pas vraiment important. L'important, c'est de faire avancer l'idée. Puis d'ailleurs, c'est ça peut-être mon... Si tu essaies de suivre mon parcours professionnel puis personnel, c'est souvent ma vie a été marquée pour faire avancer les idées, avancer mes idées. Puis j'ai toujours pris le chemin que je pensais qui était le plus prometteur pour ça.
Mais c'est gros ce que tu viens de me dire, que la politique, la porte n'est pas fermée pour toi.
Bien, c'est-à-dire que, tu sais, si j'ai des gens qui se présentent en qui je crois, puis je pense que je peux faire une différence, je vais aller les aider, c'est sûr. Puis, mais si je pense que je vais avoir plus d'impact, mais c'est pourquoi je n'y vais pas, puis que j'irai peut-être probablement jamais. Parce que malheureusement, dans le système politique actuel, j'ai plus d'impact quand je suis en arrière d'un micro que si je suis dans un parlement.
Je vais finir en parlant de quand tu es allé en Irak.
Oui.
Tu es allé vivre ailleurs dans le monde, oui, avec différentes communautés. Tu l'avais fait dans un contexte qui était...
La guerre.
Oui, mais tu le faisais pour un...
Ah, oh, l'Institut national démocratique, oui.
Oui. Oui. Comment ça s'est passé?
Bien, comment ça s'est passé? J'ai resté en Irak, je ne suis pas resté très longtemps. Je partais pour plus longtemps, mais j'ai décidé à un certain moment de revenir au Québec, à Québec, en fait. Et j'ai trouvé ça excessivement dur. C'était très stimulant parce que faut vous compreniez que dans le domaine dans lequel je travaillais, dans le développement démocratique, l'Irak, c'était le nec plus ultra. C'est comme si j'avais été travailler là, dans ce qu'il y a de top. Là. C'est comme si j'étais à Hollywood pour un artiste. Là. Et fait que c'était, pour moi, c'était très valorisant. C'était tous les yeux de la planète étaient sur nous parce qu'on était dans une grosse transformation démocratique. On pensait que peut-être ça allait devenir le premier pays arabo-musulman à goûter véritablement à la démocratie. Puis, fait qu'autant c'était stimulant ce côté professionnel, autant au niveau personnel, à cause de la guerre, à cause du climat, à cause de l'insécurité qui régnait à Bagdad à ce moment-là, ça a été terrorisant pour moi.
En quelle année tu étais là?
Tu vois, je me souviens même plus de l'année. En 2011, 2010, 2011, quelque chose comme ça. Bon, ça a de l'allure, hein? 2010, oui, peut-être.
Ça a été insécurisant?
Ah, très. Attends une minute. Quelle année je suis parti? Non, c'était en 2009. 2009, excuse-moi. Ça a été très insécurisant parce que, bien, premièrement, tu arrives à l'aéroport de Bagdad, là, juste mettez-vous dans l'ambiance. Tu atterris à l'aéroport, tu as quatre gardes du corps qui t'attendent, ils te donnent un casque de sécurité, une veste anti-balles, il y a quatre jeeps qui sont dehors, ils te rentrent dans un des quatre jeeps, ils t'assoient en dessous du banc, il y a des gars dans les quatre jeeps qui ont les têtes sorties, puis en arrière, il y a des machine guns qui sortent par la valise. Et là, les quatre jeeps s'en vont en zigzaguant sur l'autoroute entre l'aéroport et le centre-ville. C'était au moment où j'étais là, l'autoroute ou la route la plus insécure, la plus dangereuse de la planète. Et ils font ça pour des raisons de sécurité. Là, mais puis avant d'arriver là, j'avais été dans le désert. J'étais allé à Erbil, là, au Kurdistan, pour faire un entraînement militaire, justement, pour être capable de manier toutes ces armes-là, puis pour pouvoir réagir en contexte là, de kidnapping ou de n'importe quoi, de
fusillade. Qu'est-ce qu'on t'apprenait?
Oui, bien, on t'apprend à te servir d'abord de tous ces instruments-là, de tous ces appareils, que ce soit un AK-47, un machine gun, juste que je sois capable de prendre l'arme.
De
si
tirer, oui.
Si jamais les gens autour de moi se font tirer, je prends leurs armes puis je me défends.
Mais là, si tu te fais kidnapper, tu dois faire quoi?
Bien, c'est comment me sauver, comment... toutes les techniques pour pas, aussi les techniques pour quand les gens vont te tirer dessus, comment te protéger quand tu es dans une voiture, quand tu es dans une salle de réunion, quand tu es dans... Quels sont les éléments où faut-tu te mettre pour... Puis là, on te fait vivre des faits. On te met en situation pour essayer de voir comment tu vas réagir.
Tu étais avec quel genre de personnes? Tu ne devais pas être le seul à faire cet entraînement-là.
On était deux, trois. Ils font pas ça en gros groupes. C'était l'armée américaine, moi, qui m'a formé. C'était en des petits groupes. Puis quand je suis arrivé même à Bagdad, à un moment donné, moi, je ne savais pas. Là, j'étais en réunion avec un parti politique. Puis à un moment donné... Mon principal garde du corps me donne le pire des codes. Et là, j'ai fait exactement les instructions qu'il m'a données.
C'est quoi le pire des codes?
Ben, ça veut dire qu'on est en train de se faire fusiller. Il faut sortir d'ici maintenant. Là, okay. Tu dis même pas bonjour au monde. Tu te lèves, tu pars à courir. Okay? Et là, j'ai fait exactement ce qu'il m'a dit. Puis là, j'ai vu du monde qui nous mitraillait de l'autre côté de la rue. Puis là, j'avais vu du monde à terre. Et quand je suis arrivé dans la voiture, parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait, puis je me suis sécurisé, puis quand j'étais en sécurité, là, ils m'ont dit que c'était un test, que je ne referais plus jamais ça, là, mais que c'était juste pour voir, parce qu'il y a une personne sur deux qui fige. Puis si tu figes, ils t'envoient, parce que tu peux pas. Si tu figes, tu es dangereux pour ton équipe, parce que je mets la vie de tout le monde en
En
péril,
danger.
parce qu'ils sont obligés d'essayer de me sauver, pendant ce temps-là, ils sont vulnérables. Donc, ils te font faire un test, mais peut-être pas tout le temps de même, en tout cas, mais moi, ça a été comme ça. Et. Fait que là, ils m'ont dit, mais inquiète-toi plus, t'en feras plus d'autres. Là, on sait que t'es capable de réagir en
T'as pas eu
situation.
envie de quitter, toi, après ça, voyons.
Non, non, c'est bizarre, hein? Quand j'étais en Irak, ça c'est un phénomène, ben, les psys qui nous écoutent, là, ou les gens qui ont vécu un syndrome post-traumatique vont comprendre, là. Quand j'étais en Irak, avant même d'arriver, là, avant même que je te raconte l'affaire de me ramasser dans l'auto, là, juste l'avion. Parce que la zone verte autour de l'aéroport, c'est la zone sécurisée par l'armée américaine, était tellement petite que les avions ne pouvaient pas atterrir normalement parce que ce serait fait, il aurait reçu des roquettes. Fait que, il plonge. Fait que l'avion, quand elle arrive au-dessus de l'aéroport, elle plonge. Et là, tout le monde, fait que l'avion, là, vraiment, tu le sens, là. Puis, écoute, il y a plein de monde qui sont malades dans l'avion. C'est un atterrissage, quasiment un crash, là. Et, fait que ça, c'est arrivé à Bagdad. Là, t'arrives, ils te mettent dans le char que je t'ai parlé tantôt.
Ok, toi, t'as plongé avec cet
Oui,
avion-là.
puis là, puis le monde était malade autour de moi. Moi, j'ai pas été malade. Heureusement, j'ai le cœur fait solide, j'ai le pied marin, faut croire, ou aérien. Et là, je suis arrivé là. Fait que, puis tout ce temps-là, je te jure, Pascal, j'ai jamais eu peur. OK? Jamais, jamais. Écoute, j'allais courir le matin. Tu sais, je sais pas si vous vous souvenez de ça, là, mais il y avait comme des sabres qui se croisaient. Puis on voyait à l'époque Saddam Hussein avec ses défilés militaires en dessous de ça. Mais moi, évidemment, Saddam Hussein n'était plus là, là, mais. On allait courir là le matin. Moi, je joguais, puis j'allais avec les militaires courir là-dedans. Tu sais, j'étais vraiment au cœur de où ça brassait, puis je voyais du monde se faire tuer, puis tous les jours, on ramenait des corps, puis il y a eu toutes sortes de trucs épouvantables, puis je remplaçais une fille qui s'était fait tuer, qui avait été victime justement d'un kidnapping, puis que finalement, ça a mal tourné,
Une
puis ils l'ont
Canadienne?
tuée. Non, c'est une Américaine.
OK.
Et pendant que j'étais là, jamais, jamais j'ai eu peur. Je me faisais réveiller deux, trois fois par nuit. Il fallait que je m'en aille à l'abri antimissile parce qu'on bombardait la zone verte pendant la nuit. Il est arrivé plein, plein, plein d'affaires.
T'étais sur le pilote
Oui,
automatique?
je dormais habillé avec un espèce de walkie-talkie à côté de mon lit avec les alarmes toujours ouvertes au cas. Puis jamais j'ai eu peur. Jamais j'ai craint ma sécurité. Puis ma mère a capoté. Tu sais, j'écoute, j'appelais, là. Puis elle entendait les hélicoptères passer. Puis elle entendait des cris, les alarmes partir. Je vais te rappeler, il faut que j'aille à l'abri antimissile. Il y a des roquettes qui viennent de tomber. À un moment donné, j'ai revolé. Écoute, il y a eu toutes sortes d'affaires, là. Mais jamais j'ai eu peur. Puis quand je suis arrivé au Québec, 6 mois plus tard, c'est là que j'ai commencé à avoir des effets secondaires et des réactions.
Donc, un post-traumatique.
Oui.
T'avais de l'hypervigilance?
Non, ce qui est arrivé, le premier symptôme, puis il est encore présent, c'est que je dors plus. C'est que j'ai souffert d'insomnie.
Tous les bruits te réveillent? Comment ça se manifeste?
Non, c'est juste que je fais pratiquement plus d'heures. Après 3-4 heures de sommeil, je suis plus capable de dormir. Je sais pas, tu sais, c'est
C'était
pas.
pas ça avant, là.
Non, je dormais 8 heures, là, facile, là. Et j'ai plus jamais redormi 8 heures. C'est bizarre, hein? Ça fait 10 ans. Puis fait que ça, c'est un des symptômes. Les autres affaires, mais c'est des niaiseries, là. Je l'ai déjà raconté, ça, c'est. Tu sais, genre, j'étais arrivé chez ma mère, les sprinklers sont partis en pleine nuit. Tu sais, je suis revenu au mois de juillet. Puis je me suis garoché en dessous du lit, puis je criais. Je pensais que j'allais me faire mitrailler, mais oui, j'entendais sprinkler. Tu es tellement habitué. Ton cerveau, il est comme tout. J'étais dans un centre d'achat, le système de climatisation est parti. Je suis parti à courir dans les allées, je cherchais l'abri antimissile. Tu sais, t'es dans un Walmart,
T'avais
là.
pas été capable de faire on-off avec ton cerveau
Non,
complètement,
c'est
là.
ça qui est bizarre.
Mais ça,
Puis.
c'est un post-traumatique, là.
Oui.
T'as-tu été traité?
J'ai essayé, mais ça. Tu sais. Comment je te dirais ça? T'sais, le cerveau humain, là, c'est pas comme un bras là, que tu peux fermer la plaie avec des points de suture. C'est pas ça. C'est plus compliqué que ça, puis c'est vraiment pas évident.
Là, si je pars la clim, vas-tu te cacher en
Non,
dessous
non,
du...
non, j'ai plus ces symptômes. Ça, je l'ai plus. Je l'ai eu, ça, je l'ai eu juste les premières semaines quand je suis revenu. Mais
Qu'est-ce qui te
je te dirais que
reste?
ça a duré un an d'avoir des flashbacks, des affaires bizarres, là. Il me reste l'insomnie. C'est le seul.
C'est le point qui te
C'est le
reste.
point qui me reste. Puis. J'ai pris la résolution depuis ce temps-là de plus retourner dans la zone de guerre. Je ne retravaillerai plus
Ah
dans une
oui,
zone de.
jamais,
Non.
jamais, jamais.
C'est fini. Pour moi, c'est parti de la vie, là.
Pourquoi c'est quoi l'élément de coupure? C'est ce qui te
Ben,
reste après?
c'est qu'il y a trop de séquelles. Puis je me suis aussi rendu compte, tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine? Puis je me suis dit, non, la vie est trop courte, là. J'ai plus de temps pour faire ça.
Ça vaut la peine individuellement, c'est ce que tu veux
Mais
dire.
individuellement puis collectivement, tu sais, ta contribution là-bas, là. Tu sais, tu regardes ça après, là, puis tu te dis, t'as-tu vraiment un succès ou bien. Ça aurait changé grand-chose si je n'étais pas allé.
Je vais terminer, Eric, avec... C'est quoi ton plus beau souvenir de toute ta vie, là, que ce soit professionnellement, que ce soit personnellement, ou une anecdote incroyable?
C'est quoi mon plus beau souvenir? Bizarrement, quand je suis revenu d'Irak, j'ai réappris à aimer la vie. Puis c'est peut-être la période de ma vie qui a été la plus heureuse, dans le sens où j'étais à Québec, je travaillais pas, j'étais libre comme l'air, j'avais de l'argent, je venais de faire une tonne d'argent, parce que là-bas, tu ne payes pas beaucoup de taxes et d'impôts. Puis, tu sais, tous des petits plaisirs de la vie qu'on prend pour acquis. Mais quand tu reviens d'une zone de guerre où tu as été privé de tout pendant des mois, tu redécouvres tout. Puis je pense que c'est ça qui a été mon plus beau moment de ma vie. C'est niaiseux, hein? Mais c'est, tu sais, de redécouvrir comment c'est le fun de marcher, de respirer, d'aller ses plaines, d'être en sécurité, de goûter les aliments, d'avoir une diversité, de pouvoir jaser à du monde de toutes sortes de sujets, que les gens te sourient sur la rue, des affaires hyper banales. Puis c'est quand je suis revenu d'Irak que je les ai le plus appréciés. Là, aujourd'hui, je les reprends encore pour acquis.
Oui, c'est ça. J'allais dire, il y a une date de péremption.
C'est
pourquoi?
Ça. Ça dure quelques mois. Mais quand tu redeviens... que tu réapprends à vivre dans une société normale, il y a comme une période de grâce. Puis j'ai vécu ça, j'ai eu la chance de vivre ça à Québec à mon retour d'Irak.
C'est vraiment un sentiment particulier.
Oui.
Hey, merci Eric, t'as vu, ça a bien fonctionné, même si oui. Luc, ton recherchiste, c'était pas
ça
avec
nous.
Ça
n'a pas été si pire.
Merci beaucoup.
Merci.